Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens.
Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur.
Liberté, égalité, fraternité.
Et pour sa grandeur.
Bonsoir, bienvenue. Bienvenue dans ce second live du podcast Place du Palais Bourbon. Donc, je vous rappelle le principe. Interview en direct avec des députés qui nous racontent leur confinement. Ce soir, nous allons parler avec Pierre Daréville, qui est député communiste des Bouches-du-Rhône. Je vais le chercher tout de suite. Hop, ça vient. On attend juste que la connexion se fasse. Mais normalement, ça devrait bientôt fonctionner. Et voilà, bonsoir, monsieur le député.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Bien, et vous?
Ça va bien, merci. On a un petit invité surprise, ça vous dérange pas? Je peux vous le montrer?
Allons-y. Ah.
Je ne sais pas pourquoi, depuis que j'ai commencé à mettre le téléphone sur vidéo, il m'a sauté sur les genoux. Alors là, bon, j'ai essayé de le faire partir, mais c'est plus fort que moi. Donc, si ça ne vous dérange pas, on va faire le live avec Marvin, qui aura aussi le droit à poser des questions.
On renaît, mais ça va, pas de problème.
J'espère que vous n'êtes pas allergique.
Ouais, ça devrait aller. Là.
Ça devrait aller, ouais, c'est clair. Comment allez-vous?
Ma foi, ça va.
Ça va.
Isé et préoccupé parce que, bon, on est dans un moment compliqué de notre histoire. Et donc, voilà, il faut s'efforcer d'être à la hauteur ensemble de ce moment.
Bien sûr. Vous êtes confiné chez vous?
Oui, je suis à Martigues. Oui.
D'accord, d'accord. Et ça se passe bien chez vous, dans votre ville?
Autant que possible, autant que possible. Le confinement, c'est quand même quelque chose de compliqué.
C'est certain.
Bien aussi exacerber toutes les inégalités dans la société.
On est... Bien sûr.
Donc, à cette occasion, beaucoup de choses ressurgissent et peut-être que c'est en train aussi de passer la société au révélateur. Et donc, on se rend compte aussi peut-être des choses essentielles auxquelles nous devrions apporter plus d'attention et plus de soins. Donc, pas inquiet de la crise qui est en train de se développer parce qu'il y a des conséquences qui commencent à se faire sentir et en même temps,
bien sûr.
Il y a des points d'appui aussi pour traverser cette situation.
Alors, vous êtes bien membre de la mission d'information COVID-19, n'est-ce pas?
Oui.
Super, donc vous allez pouvoir nous en dire un peu plus peut-être sur cette mission, de qui elle est composée, comment est-elle composée, qui la préside, quels sont vos travaux, si ça ne vous dérange pas. Je pense que ça peut nous intéresser.
Il n'y a pas de souci.
Merci.
Donc cette mission, elle a été mise en place il y a à peu près, je calcule, je crois qu'elle a été mise en place aux environs du 1er avril.
Mmh.
30 mars, 1er avril, donc 15 jours après le début du confinement. C'est une mission assez générale, qui s'appelle la mission COVID-19, en ramassé, mais enfin qui est chargée de regarder toutes les conséquences, la gestion de la crise, etc., qui a été mise en place par le président de l'Assemblée nationale et donc qui est présidé par lui-même.
D'accord.
De groupe et notamment une demande du groupe des Républicains qui avait souhaité mettre en place une commission d'enquête à terme, mais qui le prévoyait plus loin dans le temps. Parce que...
D'accord.
Et donc, dans cette mission d'information, il y a 36 membres, je crois, de mémoire, qui sont à peu près représentatifs de l'ensemble de l'Assemblée nationale dans la composition politique, des membres de tous les groupes. Cette mission, elle a vocation, d'après ce que nous dit le président, c'est ce qu'il a expliqué, à se transformer en commission d'enquête dans quelques mois lorsque le cap de la crise aura été dépassé.
D'accord.
Donc, jusqu'ici, on a conduit un certain nombre d'auditions.
D'accord.
Commencé par auditionner le Premier ministre.
Mmh.
Auditionner le ministre de l'Intérieur, la ministre de la Justice, la ministre du Travail,
Mmh.
et le professeur Delfrécy, qui est donc le président du comité scientifique,
Mmh.
auditionner la directrice générale de Santé publique France. Voilà, donc c'est un certain nombre d'auditions qui se déroulent. Et l'avantage que je vois, vous me coupez, si je suis trop bavard. Hein.
Non, non, je vous en prie, au contraire, c'est très intéressant.
L'avantage que je vois à cette commission, c'est que je pense que c'est utile que l'Assemblée se dote d'un outil de suivi de
Bien
la vie
sûr.
quotidienne du gouvernement,
Mmh.
pas rester dans cet état d'urgence sanitaire où le Parlement est complètement éjecté, hein, il est balayé, voilà. Tout le pouvoir revient finalement à l'exécutif. Bon, mais en réalité, c'est quand même assez marginal comme et d'autant plus que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a auditionné beaucoup de ministres et que
Mmh.
on a donné la parole à des gens qui l'avaient déjà finalement.
Bien sûr, dans les médias, etc. Mais le but, ce sera la rédaction d'un rapport, comme la majeure partie des missions, des commissions, pardon. Ouais,
Aura un
d'accord.
rapport qui sera rédigé, co-rédigé par Richard Ferrand et par l'ensemble des présidents et présidentes des commissions
D'accord.
permanentes de l'Assemblée.
D'accord.
Et donc, les auditions, elles sont censées nourrir ce rapport.
Mmh.
Et
Très
puis,
bien.
le travail des commissions par elles-mêmes, parce qu'elles ont recommencé à travailler un tout petit peu,
Ah oui, d'accord.
nourrir un peu aussi le travail de cette mission en général. Par
Mmh.
exemple, la commission des affaires sociales dont je suis membre,
Mmh.
nous avons commencé donc à travailler sur la question des EHPAD, qui nous a été déléguée par la mission d'information.
D'accord.
Qui fait partie des questions dont s'occupe la commission des affaires sociales.
Mmh.
Et moi, par ailleurs, on a désigné 6 binômes au sein de la commission des affaires sociales qui sont chargés de suivre particulièrement des champs qui relèvent de son activité, notamment dans le cadre du budget. Donc, par exemple, il y a deux députés qui sont chargés de s'occuper de la question du travail et de l'emploi.
Mmh,
Il y en a deux
d'accord.
qui sont chargés de s'occuper de la santé, il y en a deux qui sont chargés de s'occuper des EHPAD, il y en a deux qui sont chargés de s'occuper du handicap, et puis en oublier. Et moi, je suis chargé de m'occuper avec Michel Devaucouleurs, qui est député des Yvelines et des Modèles, de la question de la solidarité.
D'accord. Ah
Aujourd'hui,
oui.
il va pas voter l'exclusion. C'est ça
Bien sûr.
le sujet qui nous occupe. Je rebranche mon téléphone. Donc voilà
D'accord. Et
le.
comment vous faites pour vous réunir concrètement? Comment ça se passe? On a vu plein de photos qui passaient sur Twitter avec des conférences Zoom, des
Ouais.
screenshots de conférences. C'est comme ça, ouais?
C'est ça, bah, pour l'essentiel, les réunions qui ont lieu, elles se passent par visioconférence.
D'accord.
Donc, alors du coup, ça nous oblige quand même à un certain formalisme en fait. C'est-à-dire qu'on a 2 minutes de questions et puis voilà, après une fois qu'on a posé nos questions, c'est fini. Donc, c'est pas complètement satisfaisant non plus parce qu'en fait, le sentiment qu'on a, c'est qu'on n'est pas vraiment une assemblée, on est des députés. Vous voyez, c'est un peu plus compliqué aussi d'avoir des interactions
Bien sûr,
aussi
entre vous.
vivantes que si on se voyait. Alors, c'est très pratique, hein, ouais, franchement, ça nous permet quand même de faire des choses.
Bien sûr.
Mais bon, ça a ses limites aussi, quoi. Voilà.
Et du coup, comment ça s'organise? Parce qu'il y a quand même certains députés qui sont dans l'hémicycle, en
Oui.
nombre restreint, n'est-ce pas?
Oui, alors on a le droit. En fait, les questions d'actualité se poursuivent.
Mmh.
Donc ça, c'est la séance hebdomadaire hein, où on interroge l'ensemble du gouvernement qui est réuni en principe pour nous répondre avec le Premier ministre. C'est le seul moment de la semaine où tout le gouvernement est là devant nous, hein, les questions d'actualité.
Mmh, mmh.
Et on peut poser toutes les questions qu'on souhaite. Enfin, dans une limite de temps, évidemment, et de tour de
Bien
parole.
sûr,
Mais
ouais.
voilà. Et donc là, elles ont été reconduites chaque semaine parce que c'est la règle. C'est constitutionnel qu'on puisse procéder à
D'accord.
ces questions. Et donc, en fait, on a le droit d'être. On avait le droit au début d'être 3 députés,
Mmh.
enfin 2 députés plus le président de groupe s'il était là.
D'accord.
C'est 2 députés, en fait. Et puis maintenant, ils avaient réduit à un.
Ah oui, donc
Donc il n'y avait
concrètement le
qu'une seule
président de groupe
personne.
ou
Pendant un mois, là, quasiment, je crois, il y a eu une seule personne dans l'hémicycle pour poser les questions de son groupe. Alors parfois, j'ai vu, parce qu'il y avait des commentaires sur les réseaux, oui, où ils sont, etc. Voilà, tout simplement, la règle sanitaire qui avait été décidée et consentie par les députés, c'était de dire, on sera un seul. Et là, ils ont un peu réouvert. Donc, il y a 75 députés à partir de mercredi. Il y aura 75 députés.
D'accord.
Pour respecter le nombre de 100 personnes maximum. C'est une règle, il n'y a pas de souci. Une règle sanitaire, donc il dit pas plus de 100 personnes.
D'accord.
Règle de l'ARS. Donc, 75 députés, plus le personnel, etc. Ça fait 100. Voilà.
Mais pour et donc, nous, ça, ce sera à partir de quand?
À partir de mercredi, donc puisque on a eu un bouleversement nocturne de l'ordre du jour de l'Assemblée samedi soir, le Premier ministre a décidé de changer son fusil d'épaule et donc de faire une déclaration de politique générale, la séance de questions d'actualité est reportée à mercredi 11h.
D'accord. Et on a vu, donc, je pense que les personnes qui nous suivent l'ont vu aussi, que les mesures de déconfinement vont être discutées et donc vont être décidées à court terme, puisque normalement, à l'échéance du 11 mai, il faut effectivement qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient décidées. Et on a vu qu'il y aurait un vote au Parlement, mais sans débat. C'est bien ça?
Alors, il y aura un débat. Mais,
il y aura un débat.
Le problème, c'est que, en fait, voilà comment ça va se passer, pour que vous compreniez bien. Habituellement, quand on étudie un texte, on étudie le texte d'abord, on l'a à l'avance. On l'étudie en commission. On peut proposer des amendements sur chaque article, comme nous voulons, et c'est pareil en séance. D'accord ? Ce qui permet de rentrer dans la complexité d'un sujet, de formuler des propositions,
bien sûr.
D'ouvrir une discussion, un débat qui peut parfois, pas suffisamment, mais qui peut parfois faire bouger un peu les lignes, etc. Là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tel que ça nous est annoncé, le Premier ministre arrive, il fait une déclaration générale sur le déconfinement, il explique son plan de déconfinement.
D'accord.
Ensuite, chaque groupe a droit à la parole. Par exemple, nous aurons 10 minutes de temps de parole. Donc, on va, comme ça, au débotté un peu, expliquer comment nous voyons-nous les choses et comment nous réagissons à ce qui a été annoncé. Ouais. Et dans la foulée, immédiatement après, il y a un vote de confiance, quelque part, pour dire si on est d'accord avec les décisions qui sont annoncées. Et il semblerait quand même, et ça, pour l'instant, on n'a pas tout à fait de détails, que quelques dispositions soient forcément soumises à notre vote par la suite, mais je n'ai pas bien compris pour l'instant dans ce qui me
comment
comment, contexte, de quelle façon. Mais enfin, la discussion et le vote de demain, ça sera ça. Donc certains ont demandé, nous sommes joints à cette demande, qu'on puisse avoir un délai de 24 heures supplémentaire entre la déclaration et le vote, pour pouvoir y réfléchir, discuter. Ça a été refusé. Ça a été refusé par la majorité ce matin. Donc, ça va bien se passer comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, ce qui était programmé, c'était un vote simplement sur l'affaire du traçage numérique. Et une discussion simplement sur l'affaire du traçage numérique. Donc, en fait, la décision du Premier ministre, elle escamote cette discussion et ce vote sur le traçage numérique. On va avoir une discussion beaucoup plus globale.
Je vois, Et comment ça se passe, du coup? Vous ne pouvez pas voter à distance. C'est bien ça, le problème.
Non. En principe, le vote à distance, ça n'existe pas. Bon, c'est y compris pour des raisons de protection démocratique. C'est-à-dire que ça soit bien le député en personne qui vote, qui ne soit pas soumis à des pressions, que la liberté du vote soit bien garantie, etc. À l'origine, je parle de ça. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une dérogation, en fait. Qui est faite, et que les députés présents pour les groupes sont porteurs des votes de leur groupe.
D'accord. Si vous n'êtes pas présent, vous ne pouvez pas vous y opposer concrètement.
Si, mais il suffit que je signale aux députés présents que mon vote, ce n'est pas forcément le même que celui du groupe, ou que je vote comme ci, je vote comme ça, et tout ça est pris en compte.
Ah, ok. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, je me permets de vous interrompre parce qu'on a une petite question de la part de Marjorie qui demande si la séance dont on est en train de parler, donc le vote de demain, sera diffusée en direct.
Oui. Sur le site de l'Assemblée.
Sur le site de l'Assemblée nationale.
Et je pense sur la chaîne parlementaire aussi, peut-être ailleurs, peut-être. Je pense que l'intervention du Premier ministre sera sans doute retransmise aussi par des chaînes d'info.
Alors après, on nous demande si le fait d'avoir regroupé le débat et le vote de l'application de tracing avec le déconfinement est a priori voulu et que ce ne serait pas forcément, enfin finalement, une espèce de manœuvre politique. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est une bonne question. Juste avant de répondre à ça, pour terminer de répondre à la question précédente,
bien sûr.
Ça sera retransmis. La dernière fois, ils ont retransmis qu'une partie des débats. Et donc, il se trouve que les prises de parole de certains groupes, dont la mienne, sur les chaînes d'info, je parle, hein, pas sur la LCP ou la site de l'Assemblée, sont passées un peu à l'as. Voilà. Et donc, voilà, des fois, ça pose des questions. Alors, sur la question, la deuxième question posée, oui, moi, je pense que c'est une manœuvre politique parce qu'il y avait des divisions dans la majorité qui étaient apparues sur ce sujet et que le Premier ministre, il a voulu s'éviter un débat un peu compliqué et un vote un peu compliqué sur ce sujet du tracing et peut-être aussi... relativiser sans doute cette question-là dans le débat général. Voilà. Or, c'est quand même une question.
Oui, la noyer un peu peut-être dans un débat plus global. C'est intéressant, effectivement. Si ça ne vous dérange pas, Monsieur Dharréville, on va prendre 5 minutes pour parler de vous un peu, parce que nous, on est curieux, on veut savoir ce que vous disiez avant. Bah oui, en fait, on aimerait bien savoir, enfin moi en tout cas, je ne sais pas si les gens qui nous suivent sont d'accord, mais on aimerait bien savoir qu'est-ce qui vous a amené à être député aujourd'hui. Déjà, quel est votre engagement politique? D'où vient-il? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Depuis quand êtes-vous député? Enfin, que vous nous racontiez un peu cette aventure. Et qu'est-ce qui vous a poussé à être là aujourd'hui?
C'est une vaste question. Moi, je suis député. D'abord, je suis député communiste. Je suis député depuis 2017. C'est mon premier mandat. Ça fait très longtemps que je m'intéresse à la politique, à la chose publique. Depuis que je suis jeune, quoi, depuis que j'étais ado, moi j'ai été dans des mouvements de jeunesse.
Communiste aussi ou vous étiez,
non,
vous avez toujours été communiste?
J'étais membre de la jeunesse ouvrière chrétienne.
D'accord.
Voilà. Mais voilà, j'étais investi pour dans mon lycée, des choses comme ça, quoi. Et puis, donc, la chose publique, j'ai toujours trouvé que c'était important. Et j'ai trouvé que c'était important. J'ai toujours été révolté contre les injustices. Toujours eu envie d'un monde plus juste, plus humain, d'un monde meilleur. Et donc, c'est ça, je crois, qui m'a conduit fondamentalement à m'engager en politique et à vouloir lutter contre la loi de l'argent, contre la loi du plus fort, contre toutes ces inégalités qu'on voit dans la société. Et puis, à permettre, je crois, plus profondément aussi à chacun son plein épanouissement. Voilà, vous voyez, c'est cette question de l'émancipation, pour moi, c'est
fondamental.
Je crois qu'on a tous droit à ça, quoi, à avoir une vie belle, quoi, qui nous rend heureux le plus possible.
Et d'avoir les mêmes chances au départ aussi.
Oui, voilà, et puis des droits, défendre des droits aussi, parce que ça passe par là. Et donc voilà, j'ai toujours... Donc je suis devenu un militant. Je me suis dit, pour être utile j'ai jugé qu'il fallait s'engager, quoi. Et pas tout seul, parce que je crois à l'action collective. Pour moi, la politique, c'est pas une aventure individuelle, c'est pas un destin, enfin voilà. Pas ça, quoi. Au contraire, c'est un outil collectif. Et donc, je suis devenu un militant et moi, je me suis mis à réfléchir avec d'autres. Pour moi, l'engagement dans un parti, contrairement à ce que parfois je peux entendre, c'est pas une servitude, quoi. C'est pas, j'ai pas perdu ma liberté en faisant ça. Au contraire, ça m'a appris des tas de choses. Ça m'a permis d'être peut-être d'avoir un peu plus de prise sur les événements. Et puis de réfléchir, d'agir. Donc c'est pour moi plutôt un outil une manière d'exercer ma liberté, quoi. Voilà. Et donc petit à petit, on m'a confié des responsabilités, on m'a proposé des responsabilités, et jusqu'à ce qu'on me propose on me suggère d'être candidat aux élections législatives. Et puis ensuite, les électeurs et les électrices de ma circonscription ont voté. Enfin, au moins une partie d'entre eux et d'entre elles, et ont choisi de m'envoyer ici, à l'Assemblée, enfin ici et puis ailleurs, partout, pas qu'à l'Assemblée. J'ai souvent dit, ça m'est arrivé une fois, je me suis trouvé on a fait un tour de France des hôpitaux, et pour prendre le pouls, donner la parole aussi aux soignants, au personnel, voilà. Et dans un des hôpitaux où je suis allé, le directeur a refusé de me recevoir. Voilà. Ah. Et donc, j'ai répondu que je n'avais pas été élu pour rester assis sur un siège en velours. J'ai bien été élu pour, voilà, pour être sur le terrain, pour être aussi à Paris, à l'Assemblée, mener la bataille et puis faire des propositions et des tas de choses. Mm. Mais ça, ça n'est pas de nulle part, quoi. Ça, c'est une pratique... pour moi, la politique, ça doit être une pratique populaire. C'est une affaire populaire, c'est pas l'affaire de quelques élus. Donc, voilà en tout cas comment j'essaye de vivre mon mandat. Je sais pas si j'ai répondu à votre question, mais bon.
Si. Ouais. Si, bien sûr. Mais plus pour revenir un peu, qu'est-ce que vous faisiez avant de devenir député alors ?
Mon métier ?
Hormis d'être militant. Ouais. Si ça vous intéresse, si ça vous dérange pas de nous en parler.
Mon métier, c'est journaliste.
D'accord.
Voilà, j'ai pas mal galéré d'ailleurs pour devenir journaliste parce que j'ai pas fait d'école.
Moi non plus.
Voilà. <les deux. rire> Bon. Mais je crois que c'est bien qu'il y ait aussi des journalistes qui n'aient pas fait d'école. Enfin, c'est une autre manière peut-être d'appréhender les choses des fois. Ça, dans une rédaction, ça peut enrichir. Donc voilà, j'ai exercé un peu mon métier de journaliste dans plusieurs endroits. Bon, à l'Humanité, où j'ai été. Mm-hmm. Mais d'abord, j'ai fait pas mal, enfin, quelques piges, quoi. J'ai un peu galéré quand même. Puis ensuite, l'Humanité m'a embauché. Ils cherchaient quelqu'un et donc ils m'ont embauché. J'ai fait un petit détour, je vous le dis parce que je sais que ça fait sourire. Donc, un petit détour par la rédaction de Pif Gadget, figurez-vous.
Ah, j'adorais ça, moi.
Parce que à ce moment-là, le magazine a été relancé, puis moi, je m'occupais un peu de BD parce que je suis un fan
génial,
de BD.
Génial, ouais.
Et donc, on m'a sollicité pour relancer la machine un petit peu. Donc, pendant un interstice de quelques mois, j'ai fait un peu ça. Je me suis un peu occupé du journal La Marseillaise, ici.
D'accord.
Un quotidien régional. Mmh. Pour lequel j'ai dépensé un peu d'énergie pour voilà. Donc voilà, mon métier c'était principalement journaliste, puis je suis j'essaye d'écrire, voilà. Une partie de mon activité liée à ça, je suis passionné d'écriture et donc c'est une manière d'être au monde pour moi et donc j'ai écrit quelques romans, quelques essais, voilà, ma vie a été aussi occupée par des choses comme ça.
Très bien.
Voilà. Mais moi je suis un gars, parce que ouais, j'aurais dû commencer par là. Enfin moi je suis un gars de milieu populaire, moi. Je suis un gars du monde ouvrier. Mais mon père, il était agent de la sécurité sociale. Ma mère était une institutrice. Mon grand-père était mineur. Ma grand-mère était femme, employée de maison. Voilà, moi, je viens de là. Et c'est pas parce que j'ai été élu député que...
C'est certain.
Voilà, ça s'est arrêté un peu. C'est important de le dire parce que des fois, on a une image des élus. Vous voyez, il y a les élus d'un côté, les citoyens de l'autre. Non, mais pour moi, la lutte, la frontière, elle passe ailleurs, quoi. Voilà. Et la voix que j'essaye de faire entendre, c'est la voix des gens du peuple, c'est la voix des gens des quartiers, c'est la voix des du travail, des chômeurs, des retraités. Voilà.
Il y a Enzo Gauthier qui nous demande... Il dit qu'il est étudiant au journalisme et qu'il a longtemps hésité à intégrer un parti politique par peur.
Oui.
Vous, ça n'a pas été le cas. C'était un véritable engagement. Finalement, ouais, mais... c'était assez cohérent dans votre engagement.
C'était un monde assez inconnu pour moi, quand même. Hein. Moi, mes parents n'étaient pas dans des partis politiques. Et j'ai beaucoup réfléchi avant de m'engager, parce qu'y compris dans ma famille, il y avait des opinions politiques à gauche. Mais... différentes. Mes parents étaient syndicalistes tous les deux quand même. Hein.
D'accord. Donc il y avait quand même un engagement.
Mais voilà, mais pas dans le même syndicat.
Intéressant, ça devait être sympa les repas de famille.
Bah oui, voilà, c'est ça. Et donc j'ai beaucoup réfléchi avant de faire mon choix, parce qu'en fait ce qui était important pour moi, c'était à la fois c'était une forme de cohérence. J'ai toujours cette exigence-là de, à la fois porter des idéaux, des valeurs fortes. Et d'avoir le courage d'essayer de les mettre en œuvre dans le réel, pas en rester à des grandes idées et rester sur mon Aventin à distribuer des bons et des mauvais points. Et donc ça, je crois que c'est une exigence éthique et politique de chaque jour. Et voilà, et il faut s'y tenir, quoi. Et on sait, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique, c'est pas noir ou blanc et c'est un chemin. c'est un processus, c'est un, ouais. Ce sont des dynamiques, ce sont des mouvements, voilà. Et moi, j'ai trouvé que c'était dans le parti que j'ai choisi que tout ça pouvait le mieux être porté, quoi.
Ah, c'est intéressant. Et aujourd'hui, ça va faire 3 ans donc que vous êtes député. Qu'est-ce que vous avez dû sacrifier pour ça? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Qu'est-ce qui est la plus grosse, grande chose qui a changé de manière positive? Et quelle est la plus grande chose que vous avez dû sacrifier?
Bah, c'est sûr que ça a changé ma vie, même si j'étais déjà très engagé, donc mon niveau de temps passé à m'occuper de politique était élevé. Là, il n'y a pas beaucoup de place pour autre chose, en fait. Pas beaucoup de place pour autre chose. Alors, qu'on se comprenne bien, parce que bon, vous m'interrogez là-dessus, donc moi, je vous réponds volontiers, puis je joue le jeu de me livrer parce que c'est normal, mais je me plains pas. Voilà,
en disant bien sûr, ça, non, mais il y a forcément des sacrifices.
Voilà, c'est du temps, c'est tous les jours et des journées, voilà, parce qu'il faut être à la hauteur. Il faut être à la hauteur des attentes, des espoirs. Il faut être à la hauteur aussi des problèmes, quoi, des difficultés qu'on rencontre. Pour moi, quand je me lève le matin, c'est ma journée, elle a été utile, quoi. Pas utile à moi, utile à l'intérêt général, utile aux autres, utile à des causes, en fait. Donc voilà, ça, ça veut dire que j'ai dû mettre de côté, vous voyez, par exemple, avant, j'avais des projets musicaux, je fais de la musique avec un copain. Bon, tout ça,
c'est passé un peu à l'étrape.
Voilà, ouais. C'est une autre parenthèse. Bon, c'est des choses comme ça. Puis, c'est des choses de la vie de famille aussi.
Bien sûr.
Je pense que ma famille, elle paye cet engagement. Voilà, mes filles, elles payent mes absences. Voilà, je pense que c'est ça qui est le plus... voilà. Mais c'est un choix qu'on a fait ensemble et voilà, ça a un prix. Et c'est comme ça. Après, bien sûr que c'est aussi des choses très positives parce qu'on est... on est au cœur du débat, même si parfois on aimerait avoir plus de prise sur les événements et être un peu plus écouté, mais on a quand même le sentiment, enfin j'ai quand même le sentiment de pouvoir faire avancer des choses. Vous voyez par exemple ici, là, dans ma circonscription, il y avait un centre de formation professionnelle qui était menacé de fermeture, de l'AFPA. On a mené une bataille extraordinaire et on a réussi à maintenir ce centre. Pour moi, ça quelque part c'est un bonheur parce que je crois qu'on a fait œuvre utile. Je dis on parce que c'est pas moi tout seul. C'est avec les salariés du centre, c'est avec la direction du centre, c'est avec les jeunes qui avaient besoin de se former et les élus locaux. C'est voilà. C'est quelque part quand on réussit à faire avancer les choses, on se dit que. On en retire une. J'allais dire une satisfaction, c'est pas une satisfaction, mais voilà, ça nous fait avancer, quoi. Ça me donne envie de continuer à mener la bataille.
Bien sûr. Et vous êtes quand même dans un rôle un peu particulier parce que vous faites partie de l'opposition. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être aujourd'hui dans l'opposition? Qu'est-ce que c'est concrètement? Est-ce que c'est pour vous quelque chose de constructif? Est-ce que c'est quelque chose qui est plus en opposition, comme son nom l'indique? Comment est-ce que vous voyez ce mandat d'opposition, parce que ce n'est pas un mandat anodin, c'est quelque chose de particulier par rapport à la majorité. C'est peut-être beaucoup plus difficile, je ne sais pas, que d'être dans la majorité. Comment vous voyez ça, vous?
Je crois que c'est différent, mais d'abord, ce n'est pas une posture, être dans l'opposition, pour moi. C'est-à-dire que l'opposition est nécessaire à la vie démocratique, parce que s'il n'y avait que des gens d'accord entre eux, dans nos instances, et peut-être que ça se voit pas, les politiques, voilà, moi il y en a, je sais pas ce que j'ai de commun avec eux, à part le fait que j'ai été élu, donc choisi pour porter la voix, voilà, je sais pas, donc il y a des fois une globalisation comme ça qui me semble tout à fait grossière, quoi, en fait. Mais cela étant, donc l'opposition, c'est consubstantiel à la démocratie, mais pour moi ça veut dire avoir l'esprit complètement libre et critique à l'égard de ce qui nous est proposé, et c'est ce que je fais, mais aussi être je me considère comme ayant autant de légitimité qu'un député de la majorité, pour formuler des propositions et espérer qu'elles puissent être entendues.
Bien sûr.
Donc voilà. Alors après, ça signifie que après, comment on le vit concrètement, honnêtement, avec cette majorité-là, moi, je parle cash, j'ai pas de raison. Hein. Bon, ils ont quand même un peu toujours raison tout seuls. Hein. L'expérience que je fais, c'est que quand une idée vient pas d'eux, c'est quand même compliqué pour eux de l'admettre. Quoi. Je vous donne un exemple. J'ai porté une proposition de loi sur les aidants. Vous savez, ce sont des personnes qui proches qui est en perte d'autonomie ou qui a besoin d'un accompagnement. Enfin,
bien sûr.
Et donc, il y a 11 millions de personnes qui sont concernées par cette situation. C'est considérable. Donc, je me suis penché sur ce sujet. J'ai rendu un rapport. J'ai fait une proposition de loi pour essayer d'améliorer la situation de ces personnes. Et en fait, elle a été rejetée. Et je pense que c'était indéfendable. Parce que c'était honnêtement apporté au niveau financier et que ça correspondait à un véritable enjeu. Il y avait une majorité, mais qui a rejeté la proposition. Et ben, il se trouve, un an et demi après, ils ont décidé de l'intégrer dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc,
c'est intéressant,
il fallait que ça vienne d'eux, quoi.
Oui, ouais, bien sûr. Bon, après,
en même
peu
temps,
importe.
Je suis très heureux qu'elle ait été adoptée, et tant mieux. Et ça veut dire que j'ai fait mon boulot. Et que j'ai servi à quelque chose. Donc, voilà,
et que les choses avancent.
Voilà. Mais bon, je vous ai pris cet exemple-là, mais c'est quand même compliqué. On voit une majorité qui a du mal à entendre tout ce qui ne rentre pas dans son schéma de pensée et finalement, qui ne comprend pas. Il y a des contradictions dans la société.
Bien sûr.
Et donc, il faut entendre aussi, même ceux avec quoi on n'est pas d'accord. Même ceux avec
quoi
c'est bon et mais on a une pratique du pouvoir, la manière dont ils procèdent.
Oui, bien sûr. Alors on a quelqu'un qui nous demande si, d'après vous, les nombreux amendements qui ont été déposés sur le projet de loi retraite, c'était des amendements qui étaient davantage constructifs ou est-ce que ça visait plutôt à de l'obstruction, d'après vous?
Bon, il y a plusieurs choses. D'abord, oui, on était dans un rapport de force. Parce que dans le pays, il y avait des manifs depuis des semaines et des semaines. Et avec, les enquêtes d'opinion montraient que l'opinion publique, telle qu'elle s'exprimait, en tout cas dans ces enquêtes, elle était défavorable au projet. Donc, il aurait été quand même hallucinant qu'on ait un débat, on ait un texte comme ça qui arrive à l'Assemblée avec le pays sans dessus-dessous. Et un débat tranquille ou bilou à l'Assemblée nationale. Bon, ça, c'est pas, enfin, c'était franchement pas envisageable. Il faut que ce qui se passe à l'Assemblée, ça soit aussi à l'image de ce qui se passe dans le pays. Voilà. Bon, cela étant, à quoi ça sert un amendement? Ça sert à gagner du temps de parole pour pouvoir défendre des idées, pour pouvoir faire des propositions. Or, on était dans un débat très contraint, y compris le cadre parlementaire, en fait, a évacué un certain nombre de nos propositions. Nous, on a fait une proposition de loi alternative sur les retraites, que j'ai portée, dont je suis le premier signataire. Mais y compris ces propositions-là, une partie d'entre elles, on n'a pas pu les transformer en amendements pour les mettre dans le texte. Voilà. Pour des raisons à la fois d'acceptabilité, de recevabilité pardon, budgétaire, parce que ce n'était pas inscrit dans le projet initial et donc on ne pouvait pas rajouter des sujets et on ne pouvait traiter que les sujets qui étaient mis sur la table par le gouvernement, etc. Donc il fallait trouver un moyen quand même d'avoir du temps pour formuler un certain nombre de ces propositions. Mais plus que ça, parce que dans le débat sur les retraites, il y avait quand même un souci, c'est que le gouvernement n'apportait pas de réponse aux questions posées, aux multiples questions posées. Donc, le temps de parole, on l'a utilisé pour faire des propositions, mais pour poser des questions et obliger le gouvernement à répondre, pas simplement à nous, mais aussi à tous ceux et celles qui étaient mobilisés, qui attendaient des réponses précises, concrètes, sur tout un tas de sujets, avec un degré d'impréparation qui était hallucinant quoi, sur ce texte. Hein. Donc, la stratégie que nous avons choisie, nous, pour mon groupe, c'est d'avoir en commission, on avait, je crois, à peu près 500 amendements, mais qui étaient tous des amendements différents, déposés en commun par notre groupe, sur tous les sujets. Hein, à chaque fois, on a essayé, c'était pour contester ou pour proposer. Et ensuite, ces amendements, au fil du débat, on les a enrichis avec des propositions nouvelles et des idées nouvelles. Et ensuite, on les a effectivement démultipliés en séance, qui a donné ce chiffre très important de plusieurs milliers, etc. Je crois que nous, on en avait plus de 10 000 en séance, après en avoir déposé 500. Mais en fait, c'est un trompe-l'œil. Parce que si vous voulez, comme on a examiné, quand on avait un amendement, en fait, comme dans mon groupe, on est 16, ça en faisait 16. D'accord ? Donc les 10 000, il faut diviser par 16. Vous voyez ? Et à chaque fois, on n'a pas examiné les 16, on n'en a examiné qu'un. D'accord ? Donc ça veut dire que, bon, ils ont crié au loup, ils ont, etc. Mais c'était. Il y avait quelque part un peu de trompe-l'œil là-dedans. Bon, nous, on a voulu montrer. En tout cas, qu'on ne se laissait pas faire et qu'on a voulu pousser le débat. Et on avait tout à fait le temps, contrairement à ce qu'a dit la majorité, même avec ce nombre d'amendements importants, d'aller au bout de la discussion. Ça ne prenait pas 3 ans et demi, comme ils l'ont expliqué, ce n'est pas vrai. Voilà.
Oui, c'est vrai, fait beaucoup. On nous demande encore sur le chat si, d'après vous, la convergence des gauches est plus facile à mener au sein de l'Assemblée nationale qu'au niveau local.
C'est différent, en fait. On arrive à travailler ensemble à l'Assemblée nationale, en tout cas être convergent sur un certain nombre de sujets, parfois aussi faire du travail commun utile. Parce que ben voilà, on est en face aussi d'une proposition et d'un gouvernement, et donc on essaie de peser le plus fort possible dans la balance. Au plan local, ça arrive. Enfin, je pense qu'il y a eu des beaux rassemblements qui se sont opérés, notamment aux élections municipales. Ça n'a pas été le cas partout, mais ça renvoie à une question qui, à mon avis, est un peu différente, qui est: est-ce que c'est plus facile d'opérer le rassemblement à l'Assemblée nationale ou
dans les territoires?
Généralement dans le pays pour préparer des échéances à venir. Et c'est vrai que la division de la gauche est un problème lourd. Et moi, je pense qu'il faut vraiment travailler à rassembler, à proposer une perspective pour les années qui viennent. Il faut qu'on arrive à présenter une alternative à Emmanuel Macron. L'alternative à Emmanuel Macron, ça ne peut pas être Marine Le Pen. Il faut une proposition de gauche. Et donc, moi, je crois que c'est possible, mais ça demande effectivement du travail. Et j'espère que ce que nous faisons à l'Assemblée nationale peut être utile à débloquer la situation de manière un peu plus générale.
Bien sûr. Vous êtes combien de députés communistes à l'Assemblée nationale en ce moment?
Alors, dans notre groupe, on est 16.
D'accord.
Des députés qui sont membres du Parti communiste, il y en a 11. Voilà, les autres sont des gens, des ultramarins, des députés ultramarins, et qui ont une affinité avec nous, avec qui nous travaillons très bien, mais qui ont leur propre sensibilité. Voilà.
Ok, super. Bien.
On est pour les partis. Il y a des députés, il y en a 3 en Seine-Maritime. Et puis voilà, après on est un peu répartis. Il y en a un peu en Auvergne, dans le Nord. Voilà, moi ici, dans les Bouches-du-Rhône, et puis en région parisienne. Voilà.
Ouais.
On n'est pas assez nombreux.
Hein. C'est sûr. Bon, ben super. Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression qu'il y a un tout petit problème de connexion. Je vous entends plus très bien, là. Alors, plus du tout. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Hop. Non, je ne vous entends plus. Il y a un petit problème de connexion de mon côté ce soir. Je ne vous entends plus. Mince. Je crois qu'il n'y a plus de connexion. Attendez. Hop. On ne vous entend plus. Est-ce que moi, vous m'entendez? Parce que moi, je ne vous entends plus. Bizarre. Je vais arrêter. Je vais reprendre. Alors, désolée, hein. On n'entendait plus le député. Mais est-ce que moi, vous m'entendez ou pas ? Ouais, je vais essayer de relancer. Où est-il? Il est là. Hop. On va voir si ça fonctionne. Bonjour à tous. Merci. Ça vous plaît jusqu'à présent? Vous trouvez ça intéressant?
Hein, je ne veux pas commencer en direct, moi.
Bonjour.
Bonjour.
Ah, il y a un petit problème. Moi, on m'entend. Super. C'est déjà pas mal. Salut à ceux qui nous rejoignent. Bonsoir, bonsoir. Alors, je sais pas, peut-être qu'il va plus revenir. Ce serait dommage qu'il nous ait abandonnés comme ça, quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est là. Hop! C'est bon. On est dans les vraies conditions du direct. Voilà,
Voilà.
désolé.
Non, je sais pas ce que
Vous
c'est.
voyez, comme ça, au moins, on ne pourra pas nous dire qu'on faisait semblant d'être en direct.
Ah non, exactement.
Un vrai direct. Ok, bah écoutez, je pense que c'était déjà pas mal. Est-ce que vous avez peut-être des choses à nous dire en plus? Qu'est-ce que vous voulez dire pour conclure peut-être?
Non, bah, j'ai vu passer une question, mais j'ai pas eu le temps de la lire complètement.
Alors,
Mais
qu'est-ce que c'était comme question? On va
sur la commission
revenir.
des affaires sociales, je crois.
Oui, tout à fait. Vous faites partie de la commission des affaires sociales. Quelles sont les mesures prises par le Parti communiste sur le déconfinement? Voilà, c'était juste avant que ça coupe.
D'accord. Voilà, ça va nous relancer pour quelque temps, parce que. Mais
Allez-y.
non. Bon, effectivement. Donc, je vous disais juste avant que ça coupe qu'on est avec le nombre que nous sommes, on essaie de couvrir tout le champ de politique, tout le champ des activités humaines, quoi. Hein. Et donc, moi, je suis membre effectivement de la commission des affaires sociales. Alors, sur le déconfinement, on est en train de finaliser un document. Juste avant, en fait, j'ai quitté une réunion de mon groupe pour être avec vous, où on est en train de finaliser le document qui va formaliser nos propositions. Moi, bon. Il y a d'un côté le déconfinement et ensuite ce qu'il faut faire pour la suite. Parce que dans la commission des affaires sociales, il faut traiter, enfin, on va traiter à la fois l'urgence,
Bien sûr.
la sortie de cette situation, mais la sortie de cette situation, ça nous engage aussi pour l'avenir à assez long terme. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment que la relance, ça soit une relance sociale et écologique. Hein. Il faut vraiment veiller à ça et à ce qu'on ne s'enfonce pas dans le pire dans la crise et puis dans ce qui s'est révélé nous avoir conduit finalement dans la situation dans laquelle nous étions. Donc parmi les propositions que moi je formule, il y a par exemple sur les hôpitaux, là y compris ça fait partie du déconfinement, on a un sujet important qui est que beaucoup de soins ont été interrompus. C'est-à-dire qu'on s'est occupé prioritairement du Covid-19 et c'était nécessaire, mais en même temps les maladies elles n'attendent pas, hein. Tout le reste n'attend pas.
Bien
Donc, il
sûr.
faut, à un moment donné, on ne peut pas rester des mois et des mois dans cette situation-là. Donc, ça signifie qu'il faut sans doute réorganiser l'hôpital pour lui permettre de continuer à faire face à la crise un peu plus dans la durée. Là, on a fait face à l'urgence. Mais l'hôpital, il faut peut-être aussi réfléchir à son organisation pour tenir cette phase-là. Sinon, on fait reposer sur les soignants enfin, un poids insoutenable, en réalité. Hein. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi faire moi ce que je demande depuis des mois et des mois, mais il faut s'occuper d'abord abandonner les plans qui ont été annoncés de compression de l'hôpital public, rémunérer mieux les personnels soignants, embaucher si c'est possible, et je pense qu'il y a des secteurs où c'est possible, plus de personnel. Bon, vous voyez, le déconfinement, il doit aussi s'accompagner de tout un tas de mesures de ce type-là. Pour ce qui est ensuite des masques, par exemple. Bon, il est clair que il faut cesser cette pénurie. Et donc moi, je suis plutôt pour que. Alors, je comprends pas d'ailleurs pourquoi on a mis autant de temps à se mettre à jour de ce point de vue-là. Pourquoi on a balayé les alertes, parce qu'il y en a eu des alertes sur le risque. Mais en tout cas, au stade où nous en sommes. Il faut qu'il y ait un droit au masque. Hein, on va recevoir des masques dits grand public, bon, dont on peut, y compris d'ailleurs, il faut faire attention parce que les normes de ces masques ne sont pas adaptées à toutes les situations, hein, y compris au travail, par exemple. Il faut faire attention à ça. Bon, mais ça peut être des protections dans la situation où nous sommes utiles, mais à ce moment-là, il faut un droit au masque. On ne peut pas rajouter une inégalité supplémentaire. Mmh. Voilà, il y a des propositions, vous voyez, de ce type-là, et on propose en tout cas que l'État s'organise pour la logistique, quoi, pour permettre à chacune, à chacun d'avoir ce droit. Et que, voilà. Donc, il y a des choses de ce type-là. Après, il y a des mesures d'urgence aussi à prendre. Vous voyez, on a pris... pour la suite, en tout cas, j'ai auditionné ce matin des associations de lutte contre la pauvreté. Par exemple, je suis inquiet, moi, pour la jeunesse. On a des tas de jeunes aujourd'hui qui sont en grande difficulté parce qu'ils ne peuvent pas bénéficier des mesures qui ont été prises. Ils n'ont pas les minima sociaux. Il y a les petits boulots aujourd'hui, même si c'était pas la panacée, on voit bien que ça a disparu.
Notamment dans l'hôtellerie et restauration.
Exactement. Et bien sûr. Donc je suis très très inquiet pour les jeunes. Et donc je crois que là aussi il y a des mesures à prendre. Bon, le champ il est très très vaste. Si je me lance dans un développement, vous allez me maudire parce que c'est trop long. Mais en tout cas, ça sera rendu public. Et si vous le souhaitez, sur le site du groupe, sur mon site,
on pourra le partager. On pourra le partager sur Twitter si vous voulez. Non, bien sûr.
Il y a un certain nombre de mesures très concrètes. Bon, on pourrait parler de tas de sujets compliqués comme celui de l'école. Mais le déconfinement appelle en tout cas pour nous un plan cohérent. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on a eu des annonces qu'on ne comprend pas la cohérence qui ont été faites. Et donc, je ne dis pas que c'est simple. Hein. Encore une fois, on est dans une crise dont il est vrai qu'elle est inédite, qu'elle est soudaine, qu'elle est d'une ampleur importante. Mais franchement, il y aurait beaucoup à redire sur la manière dont les choses ont été faites. Et donc, nous, on pense qu'il faut mieux organiser la sortie du confinement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans cette situation de confinement. Mais il faut organiser les choses correctement. J'ajoute un élément. Quels sont les outils de mesure que nous avons? Si on veut se déconfiner, il faut que ça soit avec une maladie qui recule. Hein, on peut pas se... En tout cas, il faut que la maladie continue à décroître. Donc ça veut dire, par exemple, il y a ce fameux l'indicateur de reproduction. Il faut qu'il soit en dessous de 1. Si on est au-dessus de 1, ça veut dire que la maladie croît. Donc, il faut faire en sorte qu'il reste en dessous de 1, par exemple. En tout cas, c'est une idée qu'on peut. Mais ça veut dire qu'il faut tester pour savoir où on en est. Et je pense, moi, et pour le déconfinement, je pense que ça, c'est une mesure, mais incontournable. J'aurais dû commencer par là. C'est-à-dire qu'il faut massifier les tests et les cibler. Alors, on nous dit, on ne pourra pas tester comme ça, du jour au lendemain, 66 millions de personnes, il faudrait recommencer tous les jours. Mais moi, je dis, c'est important de savoir où on en est et de suivre l'évolution de la population. Par exemple, comme on le fait, on devrait le faire en tout cas dans les hôpitaux régulièrement, il faut que les personnes aient le droit de pouvoir être testées et que tout le monde puisse y passer régulièrement de manière à ce qu'on puisse savoir où on en est. Et que si on détecte à ce moment-là, parce qu'on aura, bien sûr, on ne va pas tester tout le monde tous les jours, on n'en a pas les moyens aujourd'hui, mais si on organise des tests comme ça de ce type-là, on va pouvoir éviter un certain nombre de propagations de virus. Et donc, je crois qu'il y a vraiment à massifier ces tests, mais il faut pour ça une stratégie, encore une fois. Voilà. Il faut que ça soit pensé, et il faut qu'il y ait toute une logistique derrière. Il faut, voilà. Tout ça mérite, hein, je vous le dis à la serpe pour me faire comprendre, mais on voit bien, par exemple, dans les endroits où les gens accueillent du public, il faut des précautions particulières.
Bien sûr. Alors, on a deux questions qui concernent le jour d'après, si vous avez encore deux secondes à nous accorder.
Oui.
Déjà, il y avait une des personnes qui est en train de regarder le live qui disait, bon, en ayant la République en marche à la manœuvre, en quelque sorte, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait vraiment un monde d'après qui voit le jour avec un changement de cap politique? Et enfin, on a quelqu'un d'autre qui nous dit, est-ce que le monde d'après, ce serait pas... intéressant de réfléchir à la mise en place d'un Green New Deal sur la base de ce qu'ont proposé les démocrates Sanders et Ocasio-Cortez aux États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble intéressant?
Oui. D'abord, effectivement, je pense que la majorité n'est pas la mieux placée pour préparer le jour d'après correctement. Ça ne vous surprendra pas. J'ai bien vu qu'Emmanuel Macron voulait se réinventer, mais il nous a quand même déjà beaucoup entourloupé et qu'il a beaucoup fait semblant, je suis extrêmement dubitatif et je pense surtout qu'on a besoin d'un autre projet de société que celui dont Emmanuel Macron est porteur. Et vraiment, ça fait des années qu'on vit dans un néolibéralisme échevelé avec Bon, enfin, on voit bien tous les dégâts que ça a produit dans nos sociétés. Et moi qui suis communiste, ce que je pense, c'est qu'il faut dépasser le capitalisme et que c'est ce système-là qui nous conduit à notre perte. Et donc, je crois effectivement, j'ai été très sensible à ce qui s'est passé outre-Atlantique avec les propositions de Sanders autour de ce Green New Deal. Mais bon, moi, je pense qu'il faut dire les choses à notre façon et les inventer à notre façon en faisant les choses... pas de manière repliée sur nous-mêmes, surtout pas. Et évidemment, ce sont des questions qui se posent à l'échelle de la planète. Mais vous voyez, on est confronté immédiatement à ce sujet, effectivement, pour le jour d'après. Ça se prépare dès maintenant. En fait, comment on va faire? Comment ça va redémarrer? Est-ce qu'on va mettre un gros coup d'accélérateur où on va se débarrasser de tout ce qui avait été mis en œuvre, en tout cas commencé petitement? Comme le propose le MEDEF, qui veut s'affranchir d'un certain nombre de règles environnementales pour dire, bon, allez, nous rajoutez pas de problème, on met un gros coup de boost et vous allez voir, ça va repartir. Moi, je crois au contraire que cette épreuve, elle, à la fois, elle nous montre et elle nous appelle à construire la suite autrement. Donc, ça veut dire, forcément, il y a besoin d'accélérer la transition écologique. Il y a besoin de l'accélérer. Et c'est pour ça que je plaide pour une relance sociale et écologique. C'est-à-dire que, vous voyez, dans ma circonscription, il y a pas mal d'entreprises d'industrie. Je suis député du port industriel de Fos-sur-Mer. Moi, j'ai des préoccupations là-dessus. Je me suis battu sur ces questions environnementales et je me bats sur ces questions environnementales. Et je crois que c'est aussi le moment, malgré les difficultés, de franchir des paliers et d'améliorer, de produire, pour produire autrement, d'améliorer l'outil de production pour produire autrement. Pour répondre aux besoins. Il ne s'agit pas de produire pour produire. Mais on a besoin de se réinterroger, effectivement, sur nos modes de vie, nos modes de consommation, nos modes de production. C'est tout à fait essentiel. Et ça, je n'ai pas le sentiment que la majorité est en train de le faire. Moi, j'entendais une ministre du Travail qui nous expliquait l'autre jour comment elle était contente d'avoir redémarré l'activité dans le secteur du BTP en plein confinement. Moi, je ne comprends plus, du coup. On est confiné, on n'est pas confiné. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. Il y a des contradictions énormes dans la gestion de la crise. Bon, mais en tout cas, pour le jour d'après, il me semble effectivement que on a à la fois cette crise, c'est un drame, quoi. C'est un drame humain que nous connaissons tous et toutes, avec des gens proches qui sont concernés. C'est une épreuve, mais il faut que cette épreuve, elle nous serve à changer de direction, voilà. Profondément, je crois ça.
En tout cas, c'était une belle conclusion.
Ben, merci.
Sauf
merci.
Si vous voulez rajouter quelque chose.
Non, j'ai beaucoup parlé déjà, vous allez m'en vouloir.
Sinon. C'était super, merci. C'était un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Je pense merci que tout le monde était très content. Et peut-être qu'on aura le plaisir de vous retrouver à nouveau sur une prochaine J'espère. Édition.
Volontiers.
Très bien.
Salut à tous.
Merci beaucoup, monsieur le député. Très belle soirée. Au revoir. Merci.
C'était Place du Palais Bourbon. Merci de nous avoir écoutés.
Au revoir.